alto de un bisma y un caseo oriental. Je suis totalement
satisfait. Moi, c'est une compagnie au passant-gage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux statuts de maîtrise vivante, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Invité à l'Assemblée nationale sur une question orale concernant la pénurie et la mauvaise qualité de l'eau, l'ADG de la Régie des Eaux évoque entre autres difficultés que connaît son entreprise, la créance que l'État congolais doit à sa société qui s'élève à près de 25% du chiffre d'affaires de la société. Ceci relance les débats sur la dette intérieure de l'État vis-à-vis des entreprises et établissements publics. Certains observateurs estiment que cette dette paralyse souvent le bon fonctionnement de ces entreprises. Comment commentez-vous cette actualité et quel est votre point de vue? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appelez au 081 890 7315 pour votre intervention en direct. Nous avons Jean-Noël Mokondo qui assure la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie et Julie Feza Bongonda, une émission coordonnée et présentée par J.R. Mungembo sous la supervision de Ben Sabamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Mungembo.
Nous avons invité Michel Somoué qui, en fait, nous aide toujours dans la modération quand il s'agit des questions économiques dans cette émission. Nous l'avons en ligne. Michel Somoué, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, JR.
D'entrée des jeux, comment peut-on commenter cette actualité? Le responsable de la Régie des Eaux devant l'Assemblée nationale, sa réaction. Est-ce que vous avez un petit commentaire?
Oui. D'entrée de jeu, je voudrais rappeler, JR, que plusieurs fois, dans plusieurs émissions, radio, télévisées et ailleurs, j'ai souvent dit que les difficultés que connaissent nos entreprises publiques sont en grande partie liées à l'irresponsabilité de l'État congolais qui entretient envers ces entreprises des ardoises colossales de la dette, de la dette publique, pour si vous permettez la tautologie. La Régie des Eaux s'aligne en première position parmi les créanciers de l'État congolais. Et il est tout à fait normal que ces entreprises connaissent des difficultés lorsque leur débiteur n'est pas solvable vis-à-vis des entreprises. Mais tout ceci, il faut le comprendre dans une certaine logique économique. L'économie, c'est laquelle? C'est la vue du rôle de l'État dans l'économie. C'est ce rôle de l'État qui nous permet de savoir ou d'analyser la nature même de la dette publique. Il est évident que aujourd'hui, presque tous les pays du monde, tous les États du monde sont endettés. Allez, on entretient des dettes vis-à-vis des opérateurs économiques ou des agents économiques de leurs États respectifs. Et je pourrais même prendre le risque de dire que dans un État normal, la part de la dette intérieure devrait être généralement supérieure à celle de la dette extérieure. Pourquoi cela se fait-il ainsi? C'est parce que l'on comprend que l'État a le rôle moteur dans l'économie de ce pays. Depuis la théorie keynésienne, on a compris qu'il est important que l'État intervienne pour booster la demande. Une façon pour booster la demande, c'est d'accroître les consommations de l'État. Disons les dépenses de l'État tout court, les consommations comme les investissements. Je devrais dire premièrement par là, effectivement, c'est aussi une consommation. Mais dans cette logique-là, on comprend parfaitement que le budget des États soit voté en déséquilibre. Généralement, dans un pays qui a besoin de croître, qui a besoin de sortir de la crise, on convient que l'État puisse entretenir un solde, un déficit budgétaire qui va être financé par divers moyens, notamment par l'emprunt de l'État. Et donc, ceci détermine la nature de la dette. Lorsque l'État s'endette à l'intérieur de son pays, ce n'est pas en ponctionnant le capital des entreprises. Ce n'est pas en ponctionnant l'essentiel de l'activité de l'entreprise. L'État, pour s'endetter à l'intérieur, recourt à l'épargne publique. L'épargne qui n'a pas d'utilisation. C'est une façon à la fois pour l'État de rémunérer l'épargne des ménages qui ont pu dégager un certain pouvoir d'achat qui ne s'est pas utilisé dans l'immédiat, pour rémunérer, c'était pas pour rémunérer ce qu'on l'achat, pour ainsi et stimuler ces ménages à faire davantage, l'État recourt à cette épargne en émettant des titres de dette qui sont rémunérateurs, justement, pour me répéter, en faveur de ces ménages. Et c'est avec cet argent-là que l'État intervient dans l'économie pour financer ce grand projet, pour financer des projets de développement, pour financer des projets sociaux, et on avance. Mais ce n'est pas exactement ce qui se passe dans notre pays. Non seulement nous avons adopté la logique libérale d'un budget toujours en équilibre, c'est-à-dire on élimine le concept du déficit budgétaire grâce auquel l'État peut s'endetter et financer les politiques économiques. Nous, on dit c'est l'équilibre budgétaire strict, dépenses égales recettes, et on s'en tient là. Et puis après, au-delà de ça, l'État, qui a refusé au départ un déficit, vient s'endetter auprès d'entreprises, non pas auprès des ménages pour prendre l'épargne, mais directement auprès d'entreprises pour prendre le produit qui fait l'objet, la raison d'être de ces entreprises. L'État ne peut pas payer cette dette-là. L'État ne peut pas payer ce qu'il prend auprès d'entreprises cash. Il s'endette et donc il transfère ses difficultés à ces entreprises-là. Et c'est le cas exactement aujourd'hui avec la régie des eaux ou de la SNEL. La dette publique, la dette de l'État vis-à-vis d'entreprises, qui nous met tous comme ça en difficulté. Donc le monsieur l'ADG de la régie des eaux n'a pas tort de mettre en exergue cette dette de l'État vis-à-vis de son entreprise comme étant le motif principal de la difficulté que l'entreprise éprouve. Mais ce constat ne suffit pas. Je dirais que le brain trust de la régie des eaux devrait, à mon avis, réfléchir pour sortir de ce caca. Sinon, à quoi ça sert de rester ADG de la régie des eaux? À quoi ça sert de rester comité de la régie des eaux quand vous savez que vous avez une présenteur que vous ne savez pas
Oui, Michel, vous avez parlé de l'irresponsabilité de l'État, mais bon nombre d'observateurs parlent plutôt de la démission de l'État qui est inhérente à plusieurs contraintes, notamment économiques et financières auxquelles fait face l'État congolais.
Je ne parlerai pas vraiment de la démission de l'État. L'État ne démissionne pas. Démissionner, c'est une bonne chose. Ça serait démissionner signifie que l'État serait dans l'inaction totale. Mais l'État est dans l'action négative. La démission suppose qu'on oublie l'État et on passe. Mais l'État est là. Il ne se peut pas oublier. Mais il faut dans une situation plutôt négative. Et ça, c'est le problème. Moi, j'aimerais encore qu'il démissionne plutôt que de nuire à l'activité d'entreprise. Okay. L'État ne nuit pas qu'à l'activité d'entreprise. L'État ne nuit pas à la régie des eaux. Lorsque l'État ne paye pas ce qu'il doit à la régie des eaux, il condamne sa population à consommer de l'eau impure, de l'eau impropre à la consommation.
De
tuer sa population au jour le jour. Mais il y a beaucoup de cas de maladies hydriques qui frappent la population congolaise. Il y a déjà, encore faut-il dire que le taux de desserte en eau potable est déjà trop faible, en dessous de la moyenne africaine, même si on se vante des taux de croissance exagérés, exorbitants. Nous avons la honte, sur le plan africain, d'être le pays le moins desservi en eau potable, alors que nous sommes probablement l'un des pays les plus, pas probablement, nous sommes le pays le plus choyé en ressources hydrauliques par la nature. Nous avons le pays qui baigne entièrement dans les eaux douces. Mais c'est ce pays-là qui n'a pas un État capable de sortir en faveur de sa population de l'eau potable, de l'eau qui soit consommable par sa population.
Voilà.
Je crois que là, c'est un problème fondamental de la responsabilité, le sens de responsabilité, qui signifie le sens de comptabilité. C'est-à-dire que l'État doit être capable de rendre compte à la population. Mais l'État refuse de rendre compte à la population, il se comporte comme il se comporte en gérant par défaut.
Alors, Michel Somoué, nous savons tout de même que la dette publique intérieure de la RDC du 31 décembre 2001 s'élevait à 1 159 425 086 $ américains. Je m'abuse, ben, à ce jour, parce que nous parlons de taux de croissance à deux chiffres, nous pouvons dire que cette dette a été réduite sensiblement.
Non, au contraire, elle a augmenté sensiblement. Parce que j'ai eu le privilège d'avoir eu un entretien ce matin avec les hauts responsables de l'OGEP. Donc, actuellement. Ils vont confirmer qu'aujourd'hui, la dette certifiée par la DGDP se chiffre à 1,4 milliard de dollars. Donc, on a augmenté. Là, c'est la dette certifiée. Le chiffre de 1,2 milliard que vous avez arrondi, effectivement, comme ça, ce n'était même pas encore ça la dette certifiée, c'est la dette brute, la dette totale, y compris la partie là, qui n'est pas encore certifiée par le GDF. Aujourd'hui, cette dette-là, qui était à 1,2, est au-delà de 2 milliards de dollars. Mais la partie certifiée, elle se chiffre à 1,4 milliard. La dette publique, l'État congolais ne veut pas payer, alors que nous avons vu l'État se déployer, se démerder, se battre comme le diable dans le bénitier, pour payer la dette extérieure avant de se réendetter, de rentrer encore dans le même schéma aujourd'hui.
Alors, à l'époque, avec le ministre Kitebi, il était clairement dit, en tout cas, si ma mémoire est bonne, lors d'une de ses interventions, que si on payait ne fût-ce que 30% de cette dette, ni le taux d'inflation, ni le taux d'échange ne serait stable.
Non, je crois que le ministre Kitebi a parlé à l'économiste approximatif, hein, c'est pas comme ça qu'il faut parler les choses. Je crois qu'il faut. L'inflation a eu toute une théorie économique qu'il faut comprendre. Mais moi, je me pose toujours la question, je la pose à tous ces dirigeants, à tous ces financiers qui gèrent les finances de notre économie. Pourquoi l'invasion des dollars ne génère-t-elle pas l'inflation au Congo? Le dollar est-il une monnaie immunisée contre l'inflation pour que le franc congolais seul soit le facteur inflationniste dans un pays? Mais j'ai dit qu'aujourd'hui, en dehors de la création monétaire par la Banque centrale, nous sommes envahis quotidiennement par des importations massives et physiques liées de banques qu'on appelle dollars américains. Je vous ai déjà dit hier, dans cette émission, je crois, que pas plus tard que l'année dernière, au 31 décembre, une seule banque a importé plus de 1,7 milliard de dollars. Je dis plus de 1,7 milliard parce que dans les 1,7 milliard, il y a des chiffres mensongers. Il y a de la fraude. Je vous ai déjà dit qu'on ne peut pas concevoir qu'une banque puisse faire toute une importation de seulement 100 dollars. Et il est parti à 11 colis de 252 kilos. Donc, si vous considérez déjà qu'il y a de ces mensonges-là répétés dans les statistiques officielles communiquées par la banque, vous allez comprendre que la vérité, c'est que cette banque-là a importé autour de 3 milliards de dollars en 2014 seulement. Mm-hmm. Et les autres banques, les 17 autres banques qui ont fonctionné en 2014, sont arrivées à combien? Et ces invasions-là, ces gens-là ne créent pas l'inflation. Il n'y a que le paiement de la dette intérieure aux entreprises qui est vital pour ce pays qui va générer l'inflation. Mais je crois que ça, c'est quand même de l'irresponsabilité. C'est un gros mensonge qui cache la mauvaise foi des dirigeants en faveur de l'économie nationale. Tout le monde sait que si on pêche les entreprises-là, non seulement nous avons des conditions de vie plus ou moins viables, mais nous avons la chance de parvenir à ce que nous appelons tous les jours l'éclosion de la classe moyenne. Parce que les PME congolaises, le chiffre de 1,2 milliard dont vous avez parlé, c'est le chiffre qui est sur la dette des PME congolaises vis-à-vis de l'État congolais. Les PME, les membres de la FENATEC, de la COPEMECO, réclament tous les jours, à corps et à cri, sans être écoutés une seule fois. Si l'État paye ces entreprises-là, mais elles vont émerger, elles vont construire une véritable classe moyenne dont nous avons besoin dans ce pays. On continue à demander des choses de son côté.
Merci beaucoup, Michel Somoyen. Nous vous gardons en ligne et nous rappelons à nos auditeurs et surtout à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent participer à ces débats en composant bien entendu les 081-890-6315 pour leur intervention en direct.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Tapissoir.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous ouvrons les standards pour accueillir les auditeurs. Maître Bavinga, vous êtes à Batadi. Bonjour, maître.
Bonjour, J.R. Bonjour à tous les auditeurs de la radio 4.
Alors, comment vous commencez cette actualité?
Merci de la parole par vous m'accorder. En fait, je salue les interventions de votre député Michel Somoyen. Mais moi, je vais aborder cette question dans trois points. Premièrement, je parlerai du contexte de la dette intérieure au Congo. Deuxièmement, je parlerai de comment trouver une solution par rapport à cela, et puis forcément je donnerai une petite conclusion. Par rapport au contexte, je suis invité quand il définit la dette intérieure. En fait, moi je me dis, la dette intérieure au Congo doit être définie différemment. Par le fait que si vous prenez la régie des eaux pour la SNEL et que vous prenez la dette que l'État congolais a envers ces sociétés-là, le contexte est différent. Par le fait qu'en définissant la dette intérieure, l'indicat dit que lorsque l'État fait recours aux partenaires locaux ou aux opérateurs économiques locaux pour financer ses activités. Là, nous sommes d'accord. Mais par rapport à la régie des eaux et à la SNEL, il ne s'agit pas de ça, parce que l'État congolais ne va pas à s'endetter auprès de la SNEL. Mais l'État congolais utilise les services de la SNEL et de la régie des eaux sans avoir à payer. Donc tous les bâtiments de l'État, tous les bâtiments qui sont acquis ou ailleurs de l'État, ne payent pas l'eau et l'électricité. Et c'est là que le fait de ne pas payer, ça s'accumule et ça constitue une dette. Donc ce n'est pas le fait d'aller à la régie des eaux et de demander à la régie des eaux de leur donner de l'argent en plus de financer. C'est un peu le contexte, c'est un peu différent. Donc il ne faut pas, la dette intérieure par rapport à ça, c'est un peu différent. Deuxièmement, vous allez dire, je voudrais proposer quelques solutions. La première, c'est que l'État congolais doit pouvoir arriver à rendre viables ces entreprises. Comment ? En ouvrant aussi la possibilité aux personnes privées d'investir. Comme j'ai dit sur la page Facebook, dans un contexte africain, c'est inconcevable que l'État congolais puisse être son propre débiteur. Parce que la régie des eaux et la SNEL sont des entreprises publiques de l'État. Et nous, les Africains, nous n'avons pas l'habitude d'aller payer les factures. Étant donné que la régie des eaux appartient à l'État, l'État peut utiliser les services de la régie des eaux en se disant « Bon, c'est ma société, si je ne paye pas, ça ne pose pas de problème. » Alors qu'il y a des conséquences graves. Tout il faudra ouvrir à la régie des eaux aux personnes privées, ce qui éviterait certaines complaisances. Si on prend l'exemple, on ouvre la régie, on privatise la régie des eaux en partie, on dit non, on confie 40% des parts au privé. Et vous verrez que lorsque l'État sera utilisé les services de la régie des eaux, l'État va le prendre avec beaucoup de sérieux parce que ces opérateurs économiques privés qui ont leur part de la régie des eaux vont s'imposer pour demander à l'État de payer leur dette pour éviter la faillite. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez toutes ces conséquences-là. Donc, premièrement, il faut d'abord qu'il y ait des opérateurs privés qui interviennent dans la gestion de la régie des eaux, ce qui éviterait la complaisance dans les fiefs de l'État pour s'endetter, pour utiliser les services de la régie des eaux de la semaine sans vous appuyer. Les deux, l'ADG de la régie des eaux n'a pas toujours raison hier. S'il se cache derrière la dette de l'État, mais il n'a pas toujours raison, si l'État a des dettes envers la régie des eaux, mais l'ADG de la SNEL ou de la régie des eaux, ils ont d'autres moyens. Est-ce parce qu'il est quelqu'un, parce que l'ADG de la régie des eaux a été interpellé par l'Assemblée nationale, et pour se disculper, pour s'en sortir, il va brandir seulement la dette intérieure. Qu'est-ce que la régie des eaux fait d'elle-même? Est-ce que la régie des eaux prend quelques initiatives pour rendre son produit viable? Quelles sortes d'eau que les Congolais sont tentés de consommer chaque jour? Même si l'État n'était pas fourni de moyens. Mais la régie des eaux a quand même quelques moyens. Les abonnés paient des factures. La régie des eaux peut travailler avec les moyens de bord. C'est là maintenant qu'il faut lutter contre la corruption.
Oui, mais maître Mavinga, vous savez comment fonctionne une entreprise. Il y a des charges d'exploitation et surtout que la régie des eaux doit maintenir son outil de travail et aussi d'autres charges du personnel et tant d'autres. Donc je crois qu'avec l'enveloppe de paiement à des abonnés, seul ne peut pas couvrir toutes ces charges, ce qui fait que la régie des eaux recourt même à certains partenaires, mais quand il faut enregistrer déjà un déficit de tour de 25% de son chiffre d'affaires, je crois que c'est déjà un problème.
Mais le déficit est de 25%, ça fait qu'il y a 75% qui reste. Et vous, il faut le temps du jour que la régie des eaux est une entreprise publique de l'État qui bénéficie des subventions. Et lorsqu'il y a des déficits qui sont prévus à la fin de l'année, la régie des eaux bénéficie des subventions. C'est pourquoi je me dis, s'il y a un déficit de 25%, c'est qu'il y a 75%.
Est-ce que vous avez une idée sur la subvention dont bénéficie la RDC, pardon, la régie des eaux en ce moment?
Non.
Ou n'importe quelle entreprise publique?
Je n'ai pas d'idée, mais toutes les entreprises publiques bénéficient des subventions de l'État. À moins que l'État congolais, comme l'État que vous avez dirigé, ne puisse être démissionnaire. Mais en principe, toutes les entreprises, toutes les entreprises qui bénéficient. C'est quoi je veux dire? Il ne faut pas que l'ADG se cramponne devant derrière les déficits. Qu'est-ce que l'ADG de Dieu peut faire avec les ceux qu'il a pour rendre viable? Aujourd'hui, on n'est pas pour mot. L'ADG de Dieu a signé un partenariat avec la Pedro hier. Mais je vous dis, les choses ne sont pas vraiment changées parce qu'il n'y a pas de sérieux de partenariat entre la Régie de Dieu et la Pedro. Je ne sais pas qui tient sous la pause. Sous la Pedro, c'est une entreprise privée portugaise qui a signé des partenariats avec la Régie de Dieu et avec l'État qu'on parlait bien, l'État congolais. Mais comme il n'y a pas de sérieux, tout le monde veut se retrouver. L'argent qui est financé par la Banque mondiale
pour améliorer le.
Il n'y a pas ce point de vue. Là, à part la responsabilité de l'État, il y a aussi la responsabilité des responsables de la régie des eaux ou des entreprises de l'État en vue de rendre viable leur gestion. Et c'est ça le plus grand problème. Il ne faut pas que l'ADG se cramponne derrière.
Merci beaucoup, Maître Mavi. Merci, merci. Oui, rapidement, rapidement en conclusion, Maître Mavi.
Pour terminer, je veux seulement dire, je demande à l'État congolais de pouvoir éviter.
Je peux utiliser ça comme ma poche à tout moment. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Maître Mavinga. On va prendre Maître Adrien qui est à Kananga. Maître Adrien, bonjour.
Oui, bonjour, J.R. Lungembo. Bonjour à M. Michel Somoy.
Vous avez la parole, Maître Adrien. Comment vous commentez cette thématique?
Oui, J.R., je commente ça sous deux aspects. Le premier aspect, c'est sur l'aspect général. Donc, je pense que sur l'aspect général, l'ADG de la Régie des Eaux a tout à fait raison, parce que les chiffres parlent en soi, et puis cette dette-là a été même donnée plus d'un milliard donc, de dollars américains. Donc, c'est difficile pour que les entreprises publiques puissent fonctionner avec une dette comme ça, gardée par les gouvernements, donc l'État congolais. Et c'est ce qui dénote maintenant de la mauvaise volonté hein, de l'État congolais, parce que là, personnellement, je me demande, mais qu'est-ce que le gouvernement, donc l'État veut faire de ses propres entreprises publiques, même lorsque nous savons très bien que dans les cas, dans d'autres circonstances, il y a même certaines personnes qui peuvent aller même au niveau de la justice. Vous verrez que lorsque l'État est condamné, c'est difficile pour qu'on puisse exécuter, pour forcer l'armée de l'État, en fait, qu'il puisse s'acquitter de ses propres obligations. Là, c'est l'aspect général. L'aspect particulier, JR, je pense que la réaction de l'ADG de la Régie des Eaux demande un certain commentaire de ma part. Ceci que je pense qu'il doit aussi voir d'abord la gestion donc de cette entreprise publique, parce que moi je me dis il ne pouvait pas se réfugier par rapport à cette dette intérieure de l'État congolais. Et donc comment est gérée cette entreprise publique? Je vous donne un cas typique donc dans notre province, la province du Kasaï occidental. Lorsque le gouverneur Trésor Kapoukou prenait le pouvoir, il y avait une certaine dette au niveau de la SNEL. Il a payé une somme de 500 000 dollars américains. Et lui-même s'est rendu compte que la gestion posait problème. Il a essayé de chercher des problèmes avec les directeurs provinciaux de la SNEL, jusqu'à tel point que sa hiérarchie a compris que non, il y avait un problème de gestion qui s'est posé. Maintenant, le gouverneur Alex Grandi est arrivé. Il s'est rendu compte que la Régie des Eaux posait des difficultés pour son fonctionnement. Mmh. Il a demandé la dette que la province avait contractée vis-à-vis de cette entreprise. On lui a donné les montants. Je vous dis noir sur blanc que le gouvernement Kande a payé toute cette dette-là vis-à-vis de la Régie des Eaux.
Oui, est-ce qu'il a payé... Oui, mais pas bien, il faut préciser. Il a payé de sa propre poche ou l'argent du gouvernement provincial?
L'argent du gouvernement provincial.
Voilà, il faut préciser parce que un acte de générosité doit être clairement défini par rapport à un acte qui entre dans le cadre normal de la gestion de la République normale.
Tout à fait. Donc, il a payé au nom du gouvernement provincial parce que c'était la dette qui concernait la province. Donc, c'était une dette contracté avant donc sa gestion, mais il a pu payer toute cette dette-là. Mais ce qui était donc la surprise du gouverneur, c'est lorsqu'il s'est rendu compte que même lorsque le gouvernement provincial avait payé la dette, mais la régie des eaux avait du mal à décoller. Il a essayé un peu de comprendre, mais qu'est-ce qui est à la base de tout ça? C'est là que nous autres, nous estimons qu'il y a un problème de gestion à ce niveau-là, parce que si au niveau national, c'est vrai que l'État ne paye pas, mais ici au niveau de la province, le gouvernement provincial a pu quand même payer à tirer
voilà.
Ces dettes-là.
Merci beaucoup.
S'il vous plaît.
Allez-y rapidement, Matadia.
Donc, le problème demeure entier. Et il n'y a pas longtemps, j'étais personnellement à Ilebo. Et j'ai vu comment est-ce que, de l'autre côté, la régie des eaux sert aux populations. J'étais très curieux. En venant ici hier, j'ai posé la question au directeur provincial de la régie des eaux qui était dans une émission d'une radio de la place.
Oui, tout à fait.
Oui. Mais qu'est-ce qui fait que la régie des eaux, il est beau, a une certaine facilité pour distribuer l'eau au sein de la population? C'est là que le directeur provincial donnera une raison qui est tout à fait fondée. Il dit, oui, mais nous, le problème ne se pose pas par rapport à la dette de l'État, au niveau de l'insolvabilité de la population.
Voilà.
La population ne paye pas de l'eau. Voilà donc ce qui est une réalité chez nous ici au niveau de la province.
Voilà, il y a à boire et à manger, d'aucuns parlent de l'insolvabilité des abonnés, et d'autres évoquent les responsabilités de l'État. En fait, les avis sont partagés. Merci beaucoup, Maître Adrien, d'avoir appelé des Kananga et de nous avoir rappelé la situation de Idilebo, qui aujourd'hui, fait face à une difficulté énorme de pouvoir, obtenir de l'eau potable 24 heures sur 24 heures. Professeur Robert, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Monsieur Gier, bonjour à l'invité Somoué.
Voilà, comment commentez-vous cette actualité qui met en tout cas sur la sellette l'ADG de la Régie des Eaux qui évoque entre autres difficultés que connaît son entreprise, la créance que l'État congolais doit à sa société qui s'élève à près de 25% des chiffres d'affaires?
Bon, je vais intervenir sur deux points. Il y a d'abord le point de l'État, d'abord la responsabilité de l'État qui se trouve être un des actionnaires de cette entreprise, c'est l'unique d'ailleurs, parce que depuis que
la Régie des Eaux a été créée.
Oui, depuis qu'on l'a privatisé, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore d'autres actionnaires que l'État. Donc c'est l'État congolais lui-même qui ne veut pas payer ses propres entreprises, ses propres dettes. C'est un peu paradoxal parce qu'il devait lui-même payer pour promouvoir l'entreprise.
La crainte aujourd'hui, certains politiques évoquent des cas de dépassement dans les paiements de la dette. Si on risque de tomber dans l'inflation et aussi dans ce qu'on a appelé l'instabilité de la monnaie. Donc ça risque de perturber un peu l'économie. C'est un point de vue qui n'est pas partagé actuellement par l'actuel gouverneur de la Banque centrale, qui lui dit clairement que le remboursement de la dette intérieure ne va pas perturber l'économie du pays.
Bon, c'est possible, mais je ne pense pas tout à fait, parce que l'économie du pays, la dette intérieure fait partie intégrale de l'économie du pays. C'est d'ailleurs la dette intérieure est générée par, les gens qui viennent fournir à l'État des fournitures de tout genre pour que l'État fonctionne, le papier duplicateur, les consommables, tout ce que vous voulez. Et tous ces gens-là sont parfois de petites entreprises. Comment va-t-on encourager les petites entreprises qui viennent déposer à l'État de quoi lui permettre de fonctionner et que l'État, à son tour, n'arrive pas à payer? Même au niveau de... Moi j'ai été conseiller dans un ministère. À la fin de mon mandat, on me dira que votre indemnité de compte final pourra vous être payée. C'est 6 mois qu'il faut qu'on vous paye l'indemnité de sortie. Mais, quelques temps plus tard, on m'a dit non, c'est versé à la dette intérieure. Ça signifie que jusqu'aujourd'hui, ça me fera peut-être 5 ou 6 ans déjà. je ne vois pas comment m'en sortir, comment obtenir cet argent. C'est une réalité. Et j'ai même assisté à la mort d'un de mes cousins qui avait versé de l'argent, des fournitures à l'État, et il s'est totalement appauvri. Il ne savait plus continuer son travail, et quelques temps après, il a attrapé de la WC, il en est mort.
Oui, mais professeur Robert, il y a même en 2009, selon certains témoignages, qu'on a assisté même à un tirage au sort pour savoir qui sera à payer, et c'était vraiment un problème, et jusqu'à ce qu'on est tombé dans un dépassement de 502% dans le paiement de la dette. Je crois que les économistes en savent mieux que nous. Alors, c'est cette crainte-là qui continue à envoûter les esprits des uns et des autres.
Bon, moi, je propose tout simplement que l'État fasse cet effort-là, parce que pour encourager la petite et moyenne entreprise, surtout les petits exploitants, il faut qu'ils
payent la dette.
Quand ils payent la dette intérieure, l'économie va très bien fonctionner. Comme disait M. Sombre, comment voulez-vous payer la dette extérieure pendant que vous sacrifiez la dette intérieure? On ne peut pas arriver à une croissance sincère. Non, bien sûr que la croissance qu'on brandit aujourd'hui, c'est une croissance qui provient des mines et consorts, des contrats miniers, mais le reste des secteurs est totalement paralysé.
Merci beaucoup, professeur Robert, d'avoir appelé de Kinshasa. On va s'envoler à Lubumbashi pour retrouver Maître Sonville. Maître Sonville, bonjour.
Bonjour, M. Junior. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Et bonjour aussi à l'invité.
Oui, vous avez la parole, Maître Sonville.
Allô?
Vous avez la parole, Maître Sonville.
Oui, je dis ceci, par rapport à la thématique, en ce qui concerne la pénurie et la mauvaise qualité de l'eau, les raisons avancées par M. l'ADG sont tout à fait valables. Puisque, si on voit aujourd'hui l'État congolais, dans le reste des créances, l'État congolais doit savoir qu'il n'a pas seulement des droits, il a aussi des obligations. L'État, dans le discours de M. Somo, il a dit que l'État va recourir à l'épargne publique. Mais quand l'État recourt, mettra l'État de dette, contracte de dette auprès des entreprises publiques, c'est l'État qui est à la base de la faillite de plusieurs entreprises publiques. Puisque pour payer les personnels, comme l'ADG l'a dit, il faut que l'État s'acquitte de ses devoirs, il faut que l'État honore ses créances. Et c'est ce qui va permettre à l'ADG de la résidence de s'approvisionner en matériel, de payer le personnel, et pour le moment, à défaut du paiement, à défaut d'honorer à ses créances, l'entreprise est dans l'obligation de recourir à des temporaires. Ce n'est pas une main d'œuvre qualifiée. Tout ça, ce sont des difficultés auxquelles l'ADG de la rue des eaux est buté. Mais et d'ailleurs, les cas sont légers. Là où l'État ne veut pas s'acquitter, là où l'État nous démontre son insolvabilité, si aujourd'hui nous assistons à la faillite de beaucoup d'entreprises, c'est suite à l'insolvabilité de notre État. La liste des cas aussi, nous pouvons étayer les cas de la SNCC, les cas de l'Hôtel Carabia, le cas du GRAC. Beaucoup d'entreprises sont maintenant à genoux, puisque l'État ne veut pas honorer à ses créances. Mais quand même, du côté de la région, nous voyons quand même certains travaux d'adduction d'eau qui sont en train de s'exécuter ici à Lubumbashi, avec en partenariat avec une entreprise chinoise. Mais comment maintenant produire cette eau de qualité?
Voilà.
La question, c'est
quoi? Alors, donc, Maître Sonville, donc, vous appelez à la responsabilité de l'État congolais pour sauver l'économie. Et c'est vrai, on parle de la croissance à deux chiffres. Il faut que cette croissance soit inclusive également. Merci beaucoup, Maître Sonville, d'avoir appelé de Lubumbashi. Nous revenons ici à Kinshasa. Nous prenons Eve Bazaïba. Madame Eve Bazaïba, vous êtes avec nous?
Oui, merci, monsieur le journaliste, je suis ensemble.
Voilà. Vous avez souhaité participer à cette émission. Comment vous commentez cette thématique?
Je voudrais commenter cette thématique en appelant aussi à la responsabilité de l'État. Et à la fin, je commence d'abord par saluer les auditeurs de la radio Capi et l'invité. Je souhaiterais que le DG fasse aussi un commentaire. Pourquoi j'en appelle à la responsabilité de l'État? Le principe est d'abord l'eau, c'est la vie. Et l'eau est gratuite, l'eau n'est pas une denrée à vendre. la facturation dont nous recevons est supposée être le service accordé pour nous ramener l'eau, nos rapprochements de l'eau avec les consommateurs directement, que ce soit les privés ou les industries, donc les entreprises. Mais qu'est-ce qui fait que dans d'autres cieux, là où il y a la rareté de l'eau douce, non seulement cette eau-là est gratuite, mais le service aussi est gratuit. Nous, nous sommes un pays qui regorge de la majorité sur l'étendue de la planète Terre de l'eau douce. Il y a d'ailleurs des demandes en ce qui concerne l'eau douce de la République démocratique du Congo, dont on parle de la guerre de l'eau. La guerre de l'eau est sous nos pieds, où les pays du Sahel disent, avec ou sans la volonté de la RDC, nous viendrons prendre de l'eau. Ils en ont obtenu même à créer toute une armée pour se préparer à venir prendre de l'eau douce au pays. Donc la guerre viendra, on viendra prendre de l'eau douce au Congo pendant que les Congolais ne bénéficient pas de l'accès de l'eau douce et de l'eau pure. Et qu'est-ce que fait l'État dans tout ça? C'est une question de responsabilité au plus haut niveau. Les sociales dont on parle commencent d'abord par l'eau. Et nous-mêmes, nous en régorgeons, nous n'achetons pas l'eau, nous en avons même à revendre, à redistribuer. Quelle est la place de l'État dans tout ça? Et en tant que DG, depuis qu'il est là, à la régie des eaux pour justement donner ce service-là, rapprocher l'eau aux consommateurs congolais. Quand cela n'est pas fait, ne fût-ce qu'à 25%. Sur toutes les années du territoire. Quelle est sa position lorsqu'ils se réunissent? Quels sont les rapports qu'ils donnent à la personne compétente au-dessus de lui en cette matière-là? On ne demande pas seulement que le Parlement puisse convoquer des plénières où on doit écouter les DG, on doit écouter le ministre. C'est quand même une question de responsabilité le plus naturel possible.
Oui, honorable Bazaïba.
Je souhaiterais que le DG en fasse le commentaire.
Voilà, je crois qu'il est en train de nous suivre. Nous avons tenté depuis hier à entrer en contact avec son équipe. Bon, ça n'a pas été facile. Mais honorable, c'est vrai, le DG a été l'invité de l'Assemblée nationale. Cette question, disons, ce débat a fait même l'objet d'une question orale. La réponse de l'ADG est connue, donc, c'est-à-dire l'État congolais doit à sa société, un montant qui s'élève à près de 25% de son chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui, ça met l'entreprise en difficulté. Le Parlement a le devoir également de procéder au contrôle, c'est-à-dire pour voir comment cela est exécuté sur le terrain. Qu'est-ce que vous prévoyez au niveau de l'Assemblée nationale pour résoudre définitivement ces problèmes, parce que vous l'avez dit, nous sommes un pays riche, nous avons de l'eau douce, mais l'eau n'atteint pas la population, et même si alors l'eau atteint la population, mais elle est de quelle qualité? Donc voilà, donc quel est le travail qui doit être fait au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale notamment aujourd'hui?
Nos compatriotes doivent savoir que notre rôle, c'est interpeller, et à l'issue de toute interpellation, question orale avec débat ou question écrite, nous envoyons des recommandations au gouvernement. Le Parlement n'est pas une instance judiciaire pour procéder les mesures coercitives, une coercition au niveau tant du gouvernement que des personnes appelées à gérer cela. Et l'État dont on parle, c'est un cercle vicieux. Qui est l'État? C'est le Premier ministre. Qui est l'État en cette matière? C'est le ministre de l'Énergie. Qui est l'État en cette matière? C'est justement les DG de la Régie des Eaux. Ce n'est pas le rôle du Parlement que de donner cette coercition. Nous avons envoyé les recommandations qui se doivent à travers le bureau, mais ça ne s'exécute pas. Mais finalement, on ne comprend plus qu'est-ce qu'il faut pour la République. Donc le rôle du Parlement, nous avons envoyé des recommandations qui ne sont toujours pas exécutées. Eh bien, que le pouvoir judiciaire s'en saisisse, parce que cela aussi va de la vie de tout un peuple.
Merci beaucoup, honorable Bazaïba, et nous rappelons que vous êtes secrétaire général du MLC. Merci d'avoir accepté, en tout cas de nous avoir pris d'ailleurs en cours de cette émission et avoir accepté de contribuer dans ces débats. Nous poursuivons les débats avec vous, Godefroy. Vous êtes à Ouvira. Vous êtes avec nous, Godefroy. Bonjour.
Oui, bonjour. Hier, je suis avec vous. Je suis aussi député bien sûr, de la transition, comme Eve Bazaïba. Je m'appelle Maurice Godefroy. Je vous appelle d'Ouvira. Bon, ce n'est pas seulement la Régie des Eaux qui est victime des pratiques du gouvernement. Ça fait longtemps Il y a énormément d'entreprises. Il y a même, s'il vous plaît, paradoxalement, même des anciens députés qui sont victimes de cette pratique. Je vous ai dit que je suis un ancien de l'Assemblée nationale de la transition, le plus 4. Je vous assure que nous avons laissé des émoluments et des dettes impossibles. Et nous sommes rentrés, moi je suis rentré à Ouvira. Je vous assure qu'il y a de nos collègues qui sont décédés à Kinshasa, des AVC, tout ça, qui sont en train d'attendre de se payer. Jusqu'aujourd'hui, la dette intérieure certifiée de plusieurs millions, qui est reportée chaque année, budget par budget, et on ne paye même pas. Alors, comme si on ne paye pas les anciens députés, est-ce que vous pensez qu'on va songer à payer la régie des eaux? Alors qu'il y a d'abord certains de nos collègues, s'il vous plaît, qui sont aussi considérés qui sont à l'Assemblée. Vous avez entendu que Mbazaï m'a dit qu'il y a des recommandations qui ne sont pas appliquées. Mais finalement, pourquoi on est parlementaire? Si une recommandation n'est pas appliquée, qu'est-ce qu'on fait? On fait une interpellation, et une motion carrément au gouvernement, on le fait tomber, c'est tout. Si on ne doit pas faire ça, c'est qu'on est parlement, on doit rester, il faut qu'on reste comme à l'époque, responsable.
Merci beaucoup, Gomes, pour avoir appelé 081-890-6315. Le débat est très passionnant. Vous avez droit au chapitre, donc vous pouvez également poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioKaki.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioKaki.net, la radio en différé à votre service. Parole aux auditeurs, pour participer, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous revenons à vous, Michel Somoué, vous êtes notre invité, vous avez suivi cette longue série des auditeurs par rapport à cette thématique. Que répondez-vous aux uns et aux autres, Michel Somoué?
Oui, je ne veux pas passer en revue les interventions de chacun individuellement, mais je crois que dans la façon générale, tout le monde tend dans le même sens. Si vous suivez par exemple le cas de M. Mazinga qui a analysé le contexte de la dette publique, qui veut faire la différence entre la dette publique, celle que j'ai définie, et la dette de la régie des eaux envers l'État. Mais non, ça reste une dette publique. La régie des eaux est une entreprise qui a une personnalité juridique distincte de celle de l'État. Donc, j'ai fait partie de toutes les entreprises. Mais effectivement, comme je dis, il y a un problème de la nature de la dette, de la façon dont notre État, lui, s'endette au sein de l'économie, comment il s'endette. C'est cette nature qui frise le banditisme de l'État, qui frise quelque part une sorte de délinquance de l'État. Parce que lorsque vous venez auprès d'un producteur, auprès d'une entreprise, vous prélevez le produit que cette entreprise destine à la vente et que vous ne venez pas à payer cette dette, là c'est un peu c'est comme si vous étiez en train d'assassiner cette entreprise-là. Et c'est là que j'ai parlé avec un particulier de la responsabilité de l'État au sens de comptabilité. Une personne qui est responsable ne peut pas être une personne insolvable, ne s'en est pas quand elle sait qu'elle ne sera pas payée. Une personne qui est responsable ne vient pas consommer le produit même de sa propre boutique, parce que c'est sa boutique, je consomme, et puis si ça tombe en faillite, je m'en fous. Là, c'est de la délinquance, c'est de l'irresponsabilité grave, ou plutôt même gravissime. Je l'ai dit et je m'attelle là-dessus. Mais j'ai dit également, à propos de l'ADG, j'ai dit que le fait que l'État n'a pas payé sa dette ne doit pas vous servir d'alibi pour rester dans l'inaction. Si l'État n'a pas payé sa dette envers vous, il a 25% de votre chiffre d'affaires. Moi, j'ai dit au départ que je n'accepterai jamais JR d'assumer des responsabilités dans une entreprise lorsque je sais que je n'ai pas de solution à apporter à cette entreprise-là. Quand je dis ça, je prends M. le chef de l'État, le président de la République, à témoin. Je ne peux jamais accepter des responsabilités dans une entreprise publique ou dans un ministère quelconque lorsque je sais dans mon âme et conscience que je n'ai pas une solution à apporter aux problèmes qui se posent à cette entreprise. Je répète, je prends le chef de l'État à témoin. C'est ce que de droit je parle. Mais malheureusement, dans le cas de la régie des eaux, vous avez quelqu'un qui sait très bien que les dettes de l'État envers la régie des eaux relèvent des décennies et des décennies. La dette de l'État envers la CNIL, ça relève des décennies et des décennies. Mais vous acceptez quand même de venir prendre des responsabilités d'une entreprise en faillite, mais pourquoi faire? C'est que vous avez des endettements à cacher. Ce que cela veut dire, à mon humble avis, ou alors, au minimum, vous devez avoir présenté à ceux qui vous tiennent la responsabilité de vous nommer un plan de redressement crédible. Mais on doit vous juger sur base de ce plan. Et c'est à ce niveau-là qu'intervient maintenant le rôle du Parlement. Vous savez, présenter un plan de redressement. Vous savez, dans d'autres pays, la nomination des individus à des postes de responsabilité pour des entreprises qui relèvent du patrimoine de l'État, mais elle doit avoir l'aval du Parlement. On ne peut pas nommer n'importe qui parce que c'est un ami, parce que c'est un frère, parce qu'on doit partager la res publica, l'État congolais, le bien public n'est pas un butin que doivent se partager quelques individus. Là, je dis encore une fois, c'est irresponsable. Il y a un monsieur qui est intervenu pour dire qu'il n'y a pas que la régie, il n'y a pas que l'État qui est insolvable. Il y a aussi la population elle-même qui est insolvable. Encore là, j'ai dit, là également, c'est une responsabilité totale de l'État. C'est l'État congolais qui entretient sa population dans la pauvreté, dans la misère la plus noire, en refusant systématiquement d'organiser l'économie. Je sais que quand l'État refuse de pourvoir l'économie des moyens, comme justement ceux liés au remboursement de la dette intérieure, l'État tue l'économie, et en tuant l'économie, il tue le pouvoir d'achat. Déjà, lorsque quelqu'un disait, vous avez cité le ministre qui était, mais si on paye la dette intérieure, si on paye 30%, c'est fini, ça va générer le
gouvernement,
etc. L'État s'organise pour refuser des moyens à l'économie nationale parce qu'il a peur de l'inflation. Et donc, c'est comme ça que l'État se permet de payer des salaires de misère aux fonctionnaires. C'est comme ça qu'on trouvait aussi dans ce pays qu'un individu peut encore payer, toucher moins de 100 dollars par mois avec une famille de 12 enfants. Est-ce que ça, c'est responsable?
Oui, ben Michel Sommo, il y a eu en 2009 tentative de paiement de la dette intérieure avec le Premier ministre honoraire, Adolphe Mouzitou. Et là, les économistes ont révélé qu'on a assisté à un dépassement de 502%, mais je ne sais pas. Comment vous expliquez cela?
Hier, je vous ai entendu évoquer ce cas en répondant au professeur Robert tout à l'heure. Écoutez, moi, je persiste, je souviens, quand on parlait de 2009, on parlait du ministre Mouzitou, le premier ministre Mouzitou, je crois que je suis parmi les gens qui ont fait beaucoup de bruit à la télévision, à la radio pour solliciter le remboursement de la dette intérieure de la part de l'État. Je suis parmi les gens qui ont influencé plus ou moins le premier ministre Mouzitou à s'acquitter de ce devoir, mais parce qu'il n'était pas préparé à le faire. Parce qu'il n'avait pas étudié au préalable les moyens de le faire, il était en difficulté. Le problème, comme je dis, c'est un problème, excusez-moi le terme, c'est un problème d'intelligence, je veux dire collective. Lorsque vous voulez aborder un problème, vous devez au préalable le comprendre parfaitement et être capable d'y apporter des solutions concrètes qui ne vont pas elles-mêmes échouer le lendemain. Ça devient un feu de paille. Le Premier ministre l'a fait à propos de la dette intérieure, il l'a fait à propos de la bourse d'études des étudiants, tout le monde le sait. Parce que ce sont des questions qui n'ont pas été étudiées de façon profonde par les cabinets. Les cabinets sont distraits, tout le monde est dans la recherche de l'argent, en commençant par les ministres, le Premier ministre, tout ça. Tout le monde est à la quête de sa fortune. Personne ne prend le temps de réfléchir sur les questions qui intéressent la population, qui intéressent l'économie nationale. Ce n'est pas que nous avons de mauvais économistes, nous avons de très bonnes économies dans ce pays, mais ils n'ont pas le temps de réfléchir. Tout le monde cherche l'enrichissement rapide.
Michel, dans ce pays, nous avons assisté à plusieurs conférences. La conférence sur le coulage, et puis d'autres conférences encore pour ne pas citer celle qui a été organisée avec Pompe d'ailleurs à Lubumbashi ou encore à Bukavu sur la conférence économique. Donc il y a pas mal de conférences qui ont été organisées qui a mis tout autour donc les économistes. Mais finalement, on s'est dit, les économistes que nous avons, les intellectuels, les gens, la matière grise pour réfléchir, mais comment on n'arrive pas au résultat?
Je ne voudrais pas me révéler trop pessimiste à l'égard du gouvernement, parce qu'il y a des gens qui croient que je vois toujours le noir même là où il y a le blanc, mais je crois qu'il y a des conférences qui sont des distractions. des distractions pures et simples. Il y a du simple folklore, il y a des simples opportunités pour les gens et des organisateurs de se taper de l'argent pour rien. Ça existe, on le fait. Et même après une telle conférence, les résolutions qui sont prises, qui les applique dans son gouvernement-là? Vous avez parlé de la conférence sur le courage des retraites. On a vu le show, le spectacle. On a entendu tous les beaux discours, parler le bon français, etc. Mais après, à la sortie même de là, pendant que la conférence se passait, des choses se déroulaient, des choses venaient de se passer au niveau des questions du budget. Donc, moi, je crois que il y a du folklore, il y a du tape à l'œil, il y a du matu vu, il y a tout ça qui s'intervient. Je pense et je signe. Dans ce pays, il y a un problème de conscience nationale, il y a un problème de moralité de la vie publique, il y a un problème malheureux de la recherche de la fortune facile, de l'argent facile, et tout le monde sait aujourd'hui que pour avoir de l'argent, il faut passer par le secteur public. Il faut aller s'engager en politique, il faut aller au cabinet ministériel, il faut être nommé ministre, il faut être ADG, parce qu'en même temps, il y a de l'impunité systématique.
Voilà.
J'ai suivi M.L. Bazaïba qui parlait justement des interpellations et qui sont suivies de rien après. Parce que nous sommes un pays d'impunité.
Voilà, nous vous gardons en ligne, Michel Sommoyer, le temps de poursuivre. On va rouvrir pour la deuxième fois le standard pour accueillir également Jean qui est à Kisangani et bénédiction à Bukavu, 081 890 7315 pour votre intervention en direct.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioCapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioCapi.net, la radio en différé à votre service. Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous avons en ligne Jean de Kisangani et bénédiction de Bukavu. Jean, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur Gère, je vous écoute, monsieur Gère.
Vous avez la parole pour commenter cette thématique.
Merci beaucoup de m'accorder la parole, monsieur le maître de Radio Okapi, c'est Radio DC, qui atteint tous les horizons. Je précise que je ne suis pas assistant, je suis à 400 ans, mon village natal à Sibatalana. Monsieur Gère, pour revenir au sujet que vous êtes en train de débattre, les entreprises publiques, le mode de fonctionnement, les difficultés qui connaissent le pays par rapport à la gestion. Je commence par vous préciser que depuis 2009, le gouvernement de la République avait fait un constat. Ce constat faisait l'état de fait que les entreprises publiques, au lieu d'être des sources de financement des institutions de l'État, étaient devenues des charges. C'est ainsi qu'à l'issue de ce constat, là avait été conçue la réforme de des entreprises publiques avec l'accompagnement en son temps du COPIREP. Au comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques. Il y a eu un décret qui a été pris. D'ailleurs, je ne sais pas si je me trompe, c'est pas vraiment légal qu'on continue à parler en termes d'entreprises publiques. Quand on regarde cette loi, toutes les entreprises qui étaient soit en faillite, soit en cessation de paiement, ont été transformées en société commerciale à acteur unique l'État. Ça, c'est une précision. Donc, je trouve mal que certaines personnes bien avisées continuent à parler en termes d'entreprise publique que le législateur lui-même a voulu enterrer. Malheureusement, malgré le constat qu'il y a eu des causes à la base de cette défaillance dans le fonctionnement des entreprises publiques, dans la gestion, le législateur a causé, a créé lui-même une difficulté grave. C'est laquelle, j'ai. Vous partez d'entreprise publique à société commerciale à associé unique, l'État. Pourquoi? Or, on aurait fait mieux à cette étape-là d'ouvrir la gestion d'entreprise publique à la concurrence. Parce que quand on est plusieurs, la somme de l'intelligence devient grande. Et le champ de la masse diminue. Aujourd'hui, l'État est actionnaire. L'État a des dettes envers les sociétés commerciales.
c'est ce que l'on appelle en droit de la confusion. C'est la réunion sur la tête de la même personne de la qualité de créancier et de débiteur. Moi, je pense que si notre législateur pouvait relire cette disposition-là et ouvrir les sociétés commerciales à la concurrence, ça peut permettre. Merci.
Merci beaucoup, Jean. De Kisangani, nous retenons que l'État aujourd'hui fonctionne comme, en tout cas, ça c'est le bicéphalisme, comme créancier et débiteur au même moment. Donc, je crois que notre invité pourrait nous éclairer là-dessus, hein, pour, avec des termes un peu clairs avec, sur la matière économique. Merci beaucoup. Bénédiction Bigot, vous êtes à Bukavu. Bonjour, Bénédiction.
Oui, bonjour, JR. Bonjour. Merci d'abord pour la parole vous accorder. Je salue. Et pour ma part, je veux d'abord saluer un autre invité là au studio. Par la suite, j'ai fait mienne toutes les réactions de mes prédécesseurs. Monsieur JR, comme je l'ai écrit dans la page Facebook de notre émission, j'ai bien stipulé que c'est vraiment regrettable que l'État actuellement est devenu vraiment des grands acteurs de découragement de ses propres initiatives. Monsieur JR, à mon humble avis, j'ai bien souligné que il faudra que vraiment il y a qui font face à la privatisation de ces entreprises, notamment parce que une fois ces entreprises seront privatisées, l'État n'aura pas encore la même mise. C'est par là que j'ai insisté sur la privatisation de ces entreprises, parce que actuellement on a constaté que l'État est devenu incapable de gérer ces entreprises. Par la suite, l'occasion maintenant la chute de ses propres initiatives.
Voilà, je crois que votre idée a été posée par les gouvernements déjà qui s'est lancé dans cette dynamique avec la CNEL. Vous avez appris qu'il y a une assistance technique d'une société canadienne. Donc déjà, nous sommes sur le point de Manitoba, voilà. Et je crois qu'avec la régie des eaux, ça viendra. Hein, et ça sera aussi le tour d'autres entreprises. Donc déjà, il y a une dynamique qui est déjà enclenchée. Donc je crois qu'on là, il n'y a pas trop de commentaires, Bénédiction.
Oui, mais il faudra que cette privatisation soit vraiment rapide, parce que actuellement l'État vraiment est devenu incapable. Et nous voyons que vraiment l'État est devenu vraiment les propres acteurs de découragement de ses propres initiatives. Et c'est même l'entreprise qui est vraiment capitale, hein, c'est même dire capitale pour le bien-être de la population, parce que madame
rend le service. Alors Bénédiction, je vais vous demander de garder la ligne, peut-être revenir avec nous plus tard. Moi, je crois que vous avez déjà dit l'essentiel. Il est temps de rappeler à nos auditeurs le numéro, c'est le 081-890-6315. Voilà, nous poursuivons parole aux auditeurs et nous entamons ces derniers quarts d'heure d'émission avec vous. Joseph, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Radio Kati.
Vous avez la parole, Joseph.
Oui, je suis avec attention les propos de ma grande sœur Eve Bazaïba. Nous pensons que le Parlement ne doit subir à une irresponsabilité. Ils ont le devoir de voter le budget, de contrôler les gestionnaires. Mais qu'est-ce que nous trouvons? Ils votent le budget, ils ne veillent que sur les dépôts qui sont directs trop élevés. Et ils sortent la loi, et ce qu'ils font, c'est le pillage qu'on a fait par la différence dans la position. Ils ne comprennent pas. Lorsqu'ils disent, nous faisons les recommandations, et puis, ça se limite à non. Quand ils doivent contrôler qu'ils disent, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, combien de fois nos députés, entre guillemets, ont contrôlé les entreprises publiques. Zéro fois. De deux, ils ont mis des crédits dans chaque budget pour le paiement de la dette de la régie de l'ESNE, de l'aide de l'État. Ils ne suivent pas l'exécution. Donc ils sont complices de la misère de la population avec le manque d'eau et l'électricité. C'est ça, les députés. Ils doivent confesser et déposer les tabliers. Non pas seulement ils sont complices, mais c'est eux qui bouffent l'argent que nous payons sans rendre service à la population.
Voilà.
Le PDG de la régie des choix. Mais c'est un faux fouillant. La régie des choix beaucoup de dons. Il reçoit des dons de la Banque mondiale, de l'Union européenne. Allez ici, à côté des Kantchaks, vous verrez des conteneurs et des conteneurs. Mais notre frère de Lubumbashi, qui dit que la régie des eaux construit à Lubumbashi des centres d'élection d'eau, ce sont des dons. La régie des eaux s'illustre à une irresponsabilité, parce que l'État, l'exécutif, ne contrôle pas. Les parlementaires sont des juisseurs. Alors, il est c'était bien sans maître. D'ailleurs, la régie des eaux.
Voilà. Non, mais.
La régie des eaux, d'ailleurs.
Non, Joseph.
C'est bien plus grave.
Oui, ce n'est pas.
La régie des eaux.
La régie des eaux a un statut juridique.
Qui est responsable.
Oui.
Dans la.
A une personnalité juridique.
Joseph. Pour donner des factures. Tendant à la baisse. Et il y a une autre dame, d'après les indications, dont nous demandons à Maman Eve, qui sont au Parlement, d'aller contrôler. Ils vont, ils se facturent. Donc on sous-estime, et il y a des points de vin qui doivent vérifier.
Voilà.
Donc les délégués de la région des eaux ne peuvent pas dire, on me doit 25%. Et il ne dit pas, comme il n'est pas contrôlé. Qu'est-ce qu'il fait
avec les
45%
Merci beaucoup, Joseph.
Ils ont des avantages.
Merci beaucoup.
Pas d'amener au directeur.
Merci.
Donc,
merci beaucoup, Joseph. On va accorder également la parole à d'autres personnes qui attendent. Maître Gaulois, vous êtes à Calémy. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi et bonjour à l'invité.
Vous avez la parole. Comment vous commentez cette thématique?
Merci. Monsieur Gilles, moi je pense que pour enrichir les idées de mes prédécesseurs, il faut que la régie des eaux soit privatisée. Tout ça, c'est dans le but de refouler l'État pour qu'il puisse mettre la main sur toutes les démarches que mène la régie des eaux. Vous allez voir qu'à Calémy, à partir la ville à partir de laquelle je vous appelle, la régie des eaux est confrontée à des sérieux problèmes. Il y a d'abord la canalisation de l'eau, parce que vous quittez le district vient souper, vous. Partout, ce sont des tuyaux qui sont foutus, c'est de l'eau qui coule de partout. Alors, on échoue aujourd'hui, la régie des eaux échoue d'intervenir parce que l'État ne suit pas à la loupe tout ce qu'il y a comme demande et tout ce qu'il y a comme solution à prendre. Vous quittez Kisebwe, vous venez jusqu'au camp du disastre Kitianga. Vous quittez Kitianga jusqu'à Mamba, où actuellement les tuyaux sont en train d'être construits, mais on sent qu'il y a un laisser-aller dans cette activité. D'où je demanderai à l'État congolais de privatiser cette entreprise afin que certaines activités soient beaucoup plus attribuées à la régie des eaux, afin qu'elle ait la même mise sur toutes ces activités. C'est ça la meilleure des solutions pour notre monde. Parce que, actuellement,
voilà, merci beaucoup.
Les droits publics qui sont.
Agacé, oui, merci beaucoup, maître Gaulois. Vous avez rejoint vos prédécesseurs par rapport à cette question, par rapport à cette solution qui pourrait aider certaines entreprises publiques à prendre l'envol. Merci beaucoup. Jean, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, bonjour les auditeurs. Oui. Vraiment, je suis tout à fait d'avoir eu l'invité. Vraiment, il donne des réponses vraiment très pertinentes et
très convaincantes. Oui.
Alors, moi, je voudrais dire ceci. Premièrement, bien entendu, le DG, quand il dit là, c'est l'état des arriérés, tout ça, il faut payer. Bien entendu, il faut l'accepter. Là, il faut que le gouvernement puisse faire un grand effort pour aider cette entreprise à se relever. Mais d'autre part, au niveau maintenant de la gestion, moi je crois que est-ce que cette entreprise, nous avons des rapports de contrôle, il y a la Cour des comptes. Contrôle-t-il cette entreprise, il y a le Parlement. Contrôle-t-il cette entreprise, le portefeuille, le conseil du portefeuille. Contrôle-t-il cette entreprise, la justice. Contrôle-t-il cette entreprise. Mais vous savez que maintenant, au niveau des cadres des directeurs là, il y a des Sénégalais là-bas, je ne sais pas s'ils ont pas 10 ou ils sont toujours là.
Oui, là,
et puis, parlons aussi du DG. Quand on vous donne une entreprise comme ça, moi je ne sais pas. Il faut être capable, quand on vous donne, il ne faut pas accepter tout simplement parce que je veux être DG, tout ça là. Quand on donne quelqu'un, c'est qu'il a quelque chose de plus pour apporter. Quand on vous donne, mais vous devez être capable, je vais mettre de l'eau. L'eau va arriver chez JR, c'est la maman qui est devant JR là. Donc chaque personne doit avoir de l'eau potable. Alors il ne faut pas accepter tout simplement parce que ah, je vais devenir DG.
Voilà.
Là aussi, c'est un problème de nomination qui se pose à ce niveau-là.
Voilà, vous inquiétez pas, comme tout le monde, qu'il y a la question de la dette intérieure, mais il y a d'autre côté, et d'autre part aussi, la question de la gestion des entreprises publiques, qui avait d'ailleurs
amené... Je vais dire un petit rien pour la fin, là.
Oui, allez-y.
Je me suis toujours posé la question, là, vraiment, j'espère que... Et ce moment honorable continue à m'écouter, mais pourquoi le gigantisme de la régie de l'eau? Peut-être à un certain moment, ça s'est justifié que, disons, à Pointe, il faut que les institutions puissent venir à Kinshasa ou à Yakoma, je ne sais pas moi, à quel pays là, pour qu'on... Mais pourquoi chaque ville ne peut pas faire sa régie des eaux? Chaque province ne peut pas faire sa régie des eaux? Est-ce que vous pouvez parler petit à petit avec la question de la
décentralisation? Je crois que c'est ça qui apportera. Je crois que c'est ça qui apportera la décentralisation. Donc, prenons notre mal en patience, peut-être des idées à inverser dans l'esprit futur de la gestion de la République. Merci beaucoup, Jean, d'avoir appelé. Michel Tromoué, nous revenons à vous pour conclure cette émission. Après avoir suivi et écouté religieusement les longues séries des auditeurs que nous avons proposées aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion, Michel Tromoué?
Il faut craindre d'abord une chose. La plupart des intervenants parlent de la privatisation comme une solution idoine au problème qui se pose. Je crois que c'est une erreur. Ça, c'est vraiment, je pense, mon point de vue, je suis prêt à faire le débat avec quiconque. C'est une grossière erreur que de penser aujourd'hui, dans les conditions de notre économie, il faut privatiser comme on l'a fait, comme on l'a souhaité à partir du copyright jusqu'à aujourd'hui. Si ça a échoué, c'est parce que, justement, les conditions ne sont pas réunies pour la privatisation. Il ne faut pas oublier que le monopole d'État n'est pas un arbitraire. Le monopole de l'État dépend de la qualité du bien, dépend de la nature du bien. Il y a des biens qu'on appelle des biens collectifs, dont la production appelle nécessairement le monopole. Et le monopole de l'État, c'est l'idéal du monopole, parce qu'il concilie justement cette qualité de bien collectif avec le niveau de pouvoir d'achat de la population, c'est-à-dire avec les objectifs sociaux de base. Donc aujourd'hui, décréter comme d'aucuns le souhaitent la privatisation du secteur de la régie des eaux, je pense que c'est une erreur. Il ne faut pas, parce que l'État a été incapable, pas l'État, parce que quelques individus ont été incapables de gérer rationnellement une entreprise qui est socialement très utile, il ne faut pas en tirer comme conclusion qu'il faut changer. Parce que ce n'est pas le sommet de l'intelligence congolaise qui est arrivé à la régie des eaux. Ce n'est pas parce que 3-4 personnes s'assemblent pour gérer la République qu'eux, ils sont les plus jeunes de la République. Je crois qu'il y a des solutions. Nous sommes 80 millions d'habitants dans ce pays, et je pense que dans les 80 millions d'habitants, il y a des gens qui sont tout à fait capables de gérer correctement l'entreprise de l'État. C'est une question d'abord d'examen de la moralité de chacun, et cet examen ne fait pas partie de nos préoccupations, du moins pour les systèmes politiques congolais en place. Ce n'est pas normal. Mais alors, par ailleurs, dans cette même logique que j'ai dit, le PDG de la régie des eaux n'est pas l'unique. Et les difficultés qu'il rencontre ne doivent pas lui servir de prétexte pour ne pas faire le travail pour lequel il s'est donné comme étant capable de trouver des solutions. Il faut que la gestion de la chose publique soit confiée à des personnes non seulement responsables, mais à des personnes qui ont une vision claire. Et la vision claire s'exprime. Et on ne peut pas continuer à nommer des gens par hasard. On a parlé des concours, mais des concours étaient des fantaisies. Moi, je crois qu'il est bon que des gens, et l'État, et nous avons un service d'intelligence pour ça, qui devrait quand même ne pas se réduire à un simple agent d'exécution des individus, mais qui devrait être là aussi pour identifier les valeurs dans ce pays. Les valeurs, il y en a beaucoup. Au lieu de corrompre toute la société à travers des mécanismes qui ne sont pas bons.
Voilà, merci Michel Tromoué, merci beaucoup, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir aidé les uns les autres à comprendre en fait la quintessence de cette thématique. Et encore merci et à très bientôt Michel.
C'est moi qui vous remercie hier.
Il ne répond pas.
Voilà, nous disons également merci à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierre Elamegi et Julie Fezabongonda, une émission qui vous a été coordonnée par J.R. Lou Ngembo. On prend rendez-vous demain dans un autre débat. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.